franceinter.fr.
On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'impôt sur le revenu gèle de nombreuses prestations sociales, des retraites, du traitement des fonctionnaires. À Bercy, depuis hier, on parle de coups de rabot. Il faudrait mieux reconnaître qu'en temps de gel, c'est à la hache qu'on opère. Le gouvernement dit, quand on accuse 4,3% de déficit et qu'il faut se présenter à Bruxelles vêtu de bonnes intentions et de lin candide, il n'y a pas 36 solutions. Ou on réalise des économies, ou on augmente les impôts. L'automne dernier, le Premier ministre de cette haute époque avait pourtant cherché une autre issue. N'augmentons ni ne diminuons massivement les impôts, recommandait-il, et remettons à plat les taxations des revenus et du capital. Mais c'est difficile d'ouvrir la boîte noire. L'inventaire de son contenu serait pourtant bien intéressant. Il permettrait de savoir où on en est vraiment de la justice sociale. Mais allez, la guerre pour la justice, ce sera pour une autre fois. Nous voici partis pour la bataille des 50 milliards d'économies. Soit dit en passant, c'est l'équivalent de ce que produit en un an l'impôt sur le revenu. Nicolas Delalande, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez trouvé un nouveau studio, vous avez suivi nos aventures. Vous auriez d'ailleurs pu tout aussi bien parler du rock à la suite de Patrick Boyer que de l'impôt.
Hein. Avec plaisir, oui. Ouais.
Mais je vous ramène quand même à vos obligations universitaires, à vos travaux passés, à vos deux livres récents, L'histoire sociale de l'impôt, c'est aux éditions du Seuil, et La bataille de l'impôt. L'histoire sociale de l'impôt, c'est aux éditions de la Découverte, et La bataille de l'impôt, c'est...
aux éditions du Seuil.
Eh bien oui, vous vous souvenez parfaitement. Il n'y a aucun rapport entre le sujet que nous traitons aujourd'hui et l'actualité politique, bien évidemment. C'est à cause du centenaire de l'impôt sur le revenu que nous sommes ensemble. L'impôt sur le revenu date en France de juillet 1914.
Oui, il est adopté quelques jours avant la déclaration de guerre. Après un très long conflit, on a débattu pendant presque une dizaine d'années, mais les choses s'accélèrent juste avant l'été 14, notamment parce qu'il va falloir financer une guerre qui devient imminente.
Et du côté de la Prusse, du côté de l'Allemagne, l'impôt sur le revenu est venu avant ?
On avait déjà un impôt sur le revenu en Prusse, mais pas à l'échelle de l'Empire allemand dès les années 1890. Et un ensemble d'autres pays se dotent de tels instruments au même moment. Les États-Unis, par exemple, l'adoptent en 1913. Et les Britanniques avaient introduit des taux progressifs dans leur impôt sur le revenu dès 1909. Donc c'est un moment où la plupart des pays réfléchissent à ces réformes.
Bah, ça réfléchit dans la polémique. La chanson, d'ailleurs, traite très souvent en France de l'impôt. C'est comme une tradition ici. C'est Zip.
Notre impôt sur le revenu est un impôt de mascarade. Je crois qu'il nous laissera tout nus et Béranger en est malade. Mais le ministre est gai comme tout. Il saute, il danse, il gambille, il dit à tous et partout, j'ai les jambes en caillou de chou. En caillou de chou. En caillou de chou.
Caillou de chou, ça veut dire quoi? Caillou de chou.
Bah, ça fait référence évidemment au nom du ministre des Finances qui a porté le projet d'impôt sur le revenu, qui s'appelle Joseph Caillaux, qui l'a présenté en 1907 et qui le porte jusqu'en 1914 et jusqu'à son adoption, et qui est à l'époque un personnage qui est finalement très détesté, aussi bien à droite que par une partie de la gauche. Et son image publique même évoluera encore dans l'entre-deux-guerres avec des débats d'une autre nature.
On ne va pas, puisqu'on ne fait pas une histoire vaudeville ici, raconter que le Figaro qui faisait campagne contre l'impôt Caillaux a informé de la vie plus agitée qu'il n'y paraissait du couple Caillaux et que Madame Caillaux est venue assassiner M. Calmette, le directeur du Figaro, dans le bureau du journal.
Oui, mais ce n'est pas que du vaudeville, puisque la campagne qui était lancée par le Figaro contre Joseph Caillaux et contre la gauche avait justement pour objectif de repousser l'impôt sur le revenu, de repousser la redistribution des richesses, une taxation accrue des riches. Et en fait, ce n'était que l'aboutissement de plus d'une dizaine d'années de mobilisation d'un ensemble d'organisations d'organes, de presse, d'associations, d'organisations qui considéraient que la création de cet impôt serait en quelque sorte un danger considérable pour la stabilité de la société française et surtout pour ses classes bourgeoises les plus aisées.
Mais ce qu'on craignait, c'était l'inquisition, l'intrusion, le fait que les familles seraient obligées, comme si elles étaient fichées, d'afficher leur revenu.
Oui, les adversaires les plus riches de l'impôt sur le revenu ne pouvaient pas seulement dire « nous ne devons pas que les plus riches soient taxés » parce que ça serait, ils se seraient exposés à un reproche d'égoïsme et de non-participation à l'effort collectif. Donc l'argument qui a le plus porté dans ces années-là, c'était de dire que tous les contribuables, tous les Français, quand bien même ils seraient pauvres ou riches, seraient soumis au pouvoir d'inquisition de l'État qui, pour connaître plus précisément le relevé de leurs revenus annuels, eh bien, pourrait constituer une sorte de grand fichier généralisé de la population disposant d'informations très précises sur leurs revenus et les taxant toujours plus davantage. Donc cette idée de la protection du secret des affaires privées était effectivement quelque chose d'assez sensible dans la population très rurale et paysanne de l'époque.
Inquisition, vous avez prononcé le mot mobilisation, c'est la guerre qui rend supportable l'impôt sur le revenu qui avait été tant contesté avant sa naissance. Au lendemain de la guerre, les foyers imposables sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui.
Ceux qui sont imposables à ce qu'on appelle l'impôt général sur le revenu, celui qui est progressif, qui est effectivement un impôt qui taxe les revenus au-delà d'un certain montant, qui va concerner dans l'entre-deux-guerres, au départ, 200 000, 500 000 foyers, donc jusqu'à à peu près 15% de la population maximum. Donc on taxe les riches et les très riches. Mais en dessous de cela, il y a un système qui touche l'ensemble de la population, qui a un impôt proportionnel sur les différents revenus, sur les différentes sources de revenus, et lui va toucher les salariés, les artisans, les commerçants, les paysans, l'ensemble des catégories socio-professionnelles de la population française.
Proportionnel, progressif, ça c'est une distinction essentielle. On dit que c'est la représentation qu'on a gardée de cette période des années 20, des années 30. Des familles étaient extrêmement privilégiées et qu'il aurait fallu les taxer encore davantage sur les revenus de leurs capitaux, ces familles. Elles auraient été, à en croire le leader communiste Thorez en particulier, ici dans sa campagne électorale de 1936, quelques 200.
Pour assurer la défense du franc et protéger l'épargne, pour équilibrer le budget de l'État, il faut faire payer les riches.
Les 200 familles conduisent notre pays à la ruine et à la catastrophe.
Le Parti communiste propose un prélèvement extraordinaire et progressif sur les grosses fortunes au-dessus de 500 000 francs, soit 3% de 500 000 à 1 million de francs, 5% de 1 à 2 millions, 7% de 2 à 5.
Les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archi-millionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire.
Et 20% au-dessus de 50 millions de francs. Ce n'est pas une mesure révolutionnaire qui vise à l'expropriation. Les possédants ne seraient pas mis sur la paille parce qu'un peu de leur superflu serait attribué aux malheureux. Le peuple de France peut et doit faire payer les riches.
Alors, il est à la fois démagogique dans son propos, le peuple doit faire payer les riches, et extrêmement technique. Maurice Thorez, il faut être technique quand on parle d'impôts proportionnels, progressifs, vous nous avez expliqué la différence. Vous pouvez nous expliquer, Nicolas Delalande, ce que c'est qu'un décile, ce que c'est qu'un centile, ce que c'est qu'un millime? Parce qu'il y a un historien qui vous a précédé, Thomas Piketty, qui dit que dans les années 20-30, pour savoir ce qu'il en était exactement de l'état de la richesse française, il faut calculer ainsi.
Bah, ce que propose Thorez en 1935-36, c'est un impôt sur le capital. D'abord, donc, on pourrait considérer que c'est d'une certaine façon l'ancêtre de l'ISF, qui a été introduit uniquement dans les années 1980. À l'époque, il n'y a pas de taxation générale du capital. Évidemment, Thorez, dans un contexte de front populaire et donc d'intégration du parti communiste dans le jeu politique républicain, finalement devient le chantre de cette taxation des riches et va cibler ce qu'on appelle à l'époque les 200 familles qui notamment étaient les actionnaires de la Banque de France. Donc on va viser les super riches.
Ce qu'il propose, alors, 200 familles, c'est la millime.
Bah, 0,01 même.
Oui, effectivement, on ne parle pas dans ce langage-là à l'époque. On n'a pas ces catégories, cette division de la population en centiles ou en millimes. Mais ce qu'il utilise, c'est la division en tranches. Ça, c'est quelque chose qui nous est encore assez familier, puisque finalement, la population peut être répartie en tranches de revenus ou de patrimoine selon le montant dont elle dispose. La division ensuite qu'on utilise aujourd'hui, qui va par exemple opposer le 1% des plus riches aux 99% des plus riches, ou le 0,1 ou 0,01% des plus riches au reste de la population, est quelque chose qu'on doit aux travaux des économistes, essentiellement de Thomas Piketty, de ceux qui ont travaillé avec lui depuis une quinzaine d'années, et qui permet, à partir des sources fiscales dont on dispose depuis la création de l'impôt sur le revenu, ou de la création de l'impôt sur les successions qui remontait au 19e siècle, de répartir la population selon effectivement le montant des ressources qu'elle concentre, qu'elle soit en haut de la population, mais pas seulement en haut les 10% les plus riches, mais le 1%, le 0,1%, etc.
Alors 10% c'est le décile, 1% c'est le centile, 0,1% c'est le millime. Alors quand on étudie ces séries, parce qu'elles ont été constituées et elles peuvent être observées, qu'est-ce qu'on constate pour la période d'après la Première Guerre mondiale?
Ce qu'a bien mis en évidence Thomas Piketty dans son livre de 2001 sur les hauts revenus en France, c'est que jusqu'en 1914, on a un niveau d'inégalité à la fois de revenus et de patrimoine qui est sans précédent dans l'histoire des deux derniers siècles. Pour ce qui touche la société française, qui touche aussi d'autres sociétés, dans une moindre mesure aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en contradiction complète avec la représentation que les Français se font à l'époque du niveau d'inégalité dans le pays.
Donc la belle époque, c'est l'époque la plus inégale.
C'est la belle époque des inégalités, en réalité. Ce qui va se passer après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, avec entre les deux la grande crise, la grande dépression des années 30, c'est qu'effectivement, il va y avoir un effondrement des gros patrimoines, à la fois du fait de causes économiques, du fait de l'inflation, de l'effondrement d'un certain nombre de dettes souveraines que possédaient ces grands patrimoines. Et puis, bien évidemment, aussi, du développement de la taxation progressive des revenus essentiellement, d'une meilleure taxation du capital dans beaucoup de pays, qui va faire qu'entre 1920 et les années 60-70, on a une compression des inégalités qu'on observe en France, en Europe occidentale et aussi aux États-Unis. Les choses changeront assez fortement à partir des années 70-80.
Eh bien, on va venir à cette période contemporaine, mais d'abord, encore une dernière chanson consacrée à l'impôt. Bon, on la connaît. Mais c'est un classique et d'ailleurs, vous l'avez reproduite dans votre livre sur l'histoire sociale de l'impôt aux éditions de La Découverte. C'est la chanson des années 30 de Milton.
Bien des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poires et de ballots. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou, et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Comme dans notre budget, il y a toujours des trous. Vous verrez qu'un beau jour, faudra payer sur tout. On payera sur sa femme et sur son perroquet. Ce jour-là, je dirai à ceux qui ne paient jamais. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus?
La démarche fiscale du contribuable est un long chemin de croix.
Je suis un peu, en quelque sorte, le confesseur des portefeuilles. Il faut tout me dire, il faut tout me déclarer, il faut rien oublier.
J'ai fraudé.
Quelle fraude, véniel ou mortel?
Oh, j'ai dissimulé des bénéfices, monsieur l'inspecteur des impôts de campagne.
C'est grave, combien de fois?
Le plus souvent possible, monsieur l'inspecteur des impôts de campagne.
Ah, c'est très grave, est-ce que vous éprouvez du remords et du regret?
Oh, ça dépend de vous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et enchâssé dans la chanson de Milton, le petit rapporteur de Jacques Martin et de son équipe, que vous n'avez pas connu, Nicolas Delalande. Très peu. Faites pas semblant. Très peu. Oui. L'histoire sociale de l'impôt, je l'ai cité, La bataille de l'impôt, c'est un autre de vos livres aux éditions du Seuil. C'est le centenaire de l'impôt sur le revenu et le début de la déclaration pour nous autres contribuables de revenus qu'il faut envoyer. Ça dépend des départements, d'ici la fin mai ou le début juin. Il faut toujours être pratique dans ce domaine-là.
On entendait et qu'on déclare beaucoup sur Internet. Hein,
si et on déclare aussi beaucoup sur Internet. Ah oui, mais oui, mais oui. Ah
en,
oui,
vous, en large partie.
Vous êtes non, de la génération Internet.
De... Et non, pas seulement. La pas.
Oui. Et tenez, là, le métier de conseiller fiscal, on entendait une confession là. D'un fraudeur, c'est apparu quand ?
C'est apparu dès les premières années d'existence de l'impôt sur le revenu, dans les années 20 ou 30. Et très souvent d'ailleurs, alors il y avait un certain nombre de comptables qui pouvaient se livrer à ces activités. Il y avait aussi, et ça c'est un problème pour l'administration, d'anciens fonctionnaires qui passaient du côté du conseil fiscal pour aider les contribuables à payer moins d'impôts. C'est un souci dans les années 20 et 30 parce qu'en fait l'administration est assez démunie face aux pratiques de fraude ou de dissimulation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'évidemment la déclaration de revenus, comme le montre la chanson de Milton, bah, c'est une révolution pour les contribuables eux-mêmes. Il faut penser, s'organiser en fait chaque année hein, pour recenser l'ensemble de ce qu'on a pu gagner, les différentes sources de gains. C'est assez compliqué. Et puis c'est assez désagréable de tout dévoiler. Mais en fait, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau pour l'administration elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces déclarations ? Sont-elles honnêtes ? Sont-elles sincères ? Sont-elles complètes ? Et en fait, se pose dès les années 20 la question du contrôle, la question effectivement des sanctions, des pénalités qui peuvent être éventuellement adoptées contre les contribuables qui auraient mal ou insuffisamment déclaré leurs impôts. Et cela se double d'un autre problème dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'en fait l'administration est aussi divisée en beaucoup de directions différentes, il y a une certaine désorganisation, il faut former les agents, et ce qui fait que c'est en réalité surtout après la guerre de 45, surtout à partir de 48 et au début des années 50, qu'on va réformer, moderniser l'administration, créer une direction générale des impôts en 1948. Et puis améliorer aussi la formation des agents avec l'École nationale des impôts qui est créée au début des années 50 pour essayer finalement un peu de renforcer les pouvoirs de contrôle, d'organisation de l'administration. Le maître mot à l'époque, c'est la modernisation et la mise au service d'une administration, d'un système fiscal qui serait considéré comme, plus performant et plus en phase avec le développement économique et social.
On a une idée du contenu de l'enseignement de l'École nationale des impôts. On apprend aux futurs fonctionnaires des impôts que le contribuable est un citoyen ou bien on lui apprend que le contribuable est un voleur potentiel.
Alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur la formation des agents dès le 19e siècle. Et là, effectivement, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on insistait beaucoup à la fois sur la manière de défendre la légitimité de l'impôt, son utilité patriotique, et surtout à comment se comporter dans l'interaction avec les citoyens contribuables. Avec cette idée que amener les gens à payer suppose une dose de, parfois de ruse, de tact, d'intelligence. Il y avait une espèce de savoir-faire qui était transmis à travers des enseignements et puis évidemment aussi une formation qui se faisait sur le tas. De plus en plus, après la guerre, et ça concerne tout le monde, en fait, la matière fiscale qui fait peur se technicise de plus en plus. Et donc, la part du droit, de la comptabilité, l'apprentissage du fameux code fiscal va devenir quelque chose de fondamental pour les agents des impôts. Ce qui fait que parfois, effectivement, dans l'interaction, on a l'impression que ça se réduit à des aspects techniques, alors qu'en réalité, il reste encore des éléments de persuasion, de conviction et autres qui sont très importants.
On parle des simples fonctionnaires de l'époque d'après-guerre, le haut du pavé est tenu par de grands fonctionnaires. L'un d'entre eux était qualifié de prince de l'esprit par Raymond Aron. Il s'appelle Maurice Lauré. Alors lui, il a inventé l'impôt indirect indolore.
Bah, en 1954,
c'est encore un anniversaire.
Voilà, il a inventé, on dit, alors le terme d'invention, supposerait qu'il soit tout seul, il n'est pas tout à fait tout seul à y penser, mais effectivement ce qui est aujourd'hui la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui est votée en 1954, et c'est vrai que l'administration et la haute administration fiscale française va longtemps s'en enorgueillir, parce que c'est d'une certaine façon la première fois que la France innove par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'elle avait été en retard pour un certain nombre de choses, et notamment l'impôt sur le revenu, qu'elle avait adopté très tardivement. Avec la TVA, on va connaître le mouvement inverse, puisque petit à petit, beaucoup de pays dans le monde vont se doter de cette nouvelle forme de taxation de la consommation, du commerce et de l'artisanat. Et ça va même devenir en fait, un peu l'impôt commun d'un grand nombre de pays européens dans les années 60-70. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à l'occasion de cet anniversaire, on entend parfois des discours qui peuvent s'enorgueillir sur le génie français incarné par Maurice Lauré qui aurait donc inventé tout seul cette TVA en 1954.
Impôt indirect
invisibles. Alors à propos d'impôts invisibles, il faudrait, nous progressons maintenant vers les années 1960, dire un mot des mécanismes d'exonération fiscale dont vous expliquait Nicolas Delalande qu'ils se multiplient. Un grand inventeur, 1965, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, il définit l'avoir fiscal. C'est un vrai bouclier, l'avoir fiscal. Vous pouvez nous raconter ce que c'était d'un mot ?
Ça permettait de déduire de sa déclaration d'impôt la moitié des dividendes qui avaient été touchés par ailleurs. Et donc c'était une façon de procurer un allègement d'impôt, une incitation à ceux qui détenaient notamment des valeurs mobilières. Donc, ça s'inclut.
Voilà qu'en 1969, le Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, a la désagréable surprise de voir publier sa feuille d'impôt dans le Canard enchaîné. Qui a bien pu communiquer cette feuille d'impôt ? Il apparaît qu'il paye très peu grâce au mécanisme de l'avoir fiscal et le voilà qui comparaît devant Pierre Desgroupes à la télévision.
Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts parce que l'indemnité du président de l'Assemblée nationale, que j'étais alors, n'avait pas été taxée. Les présidents d'Assemblée disposent, pour faire face à leurs charges de fonction, d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Quant à ne pas avoir payé d'impôt du tout pendant 4 ans, c'est de l'invention pure et simple. Et le ministère des Finances a fait paraître un communiqué précisant le montant des impôts que j'avais payés pendant ces 4 années-là.
Il était dit que vous aviez supporté, on a beaucoup épilogué sur ce mot supporté. Alors les avez-vous payés ou supportés ?
Je les ai payés des deux manières possibles, soit par retenue à la source, soit par versement direct. La loi est ce qu'elle est et elle m'a été appliquée entièrement.
De vos impôts, on est passé, monsieur le Premier ministre, à votre fortune. Et je dois dire que dans ce domaine, ce n'est pas la précision qui a régné, on a assisté à une véritable surenchère. Alors sans doute est-il difficile pour quelqu'un de prouver qu'il n'est pas riche, s'il n'est pas riche. Mais peut-être en revanche est-il aisé de dire, plus simplement, ce qu'on possède. Est-ce que c'est indiscret de vous le demander ?
Monsieur Desgroupes, votre question n'est pas habituelle. Mais la loi, la règle de l'interview, c'est que vous êtes le maître des questions. Et j'ajoute, je pense qu'un homme politique ne doit rien avoir à cacher.
Et voilà le Premier ministre obligé de dire qu'il a une maison au Pays Basque, un appartement à Bordeaux, que sais-je. Déjà le thème de la transparence du patrimoine des hommes politiques. On note d'ailleurs une certaine gêne de Jacques Chaban-Delmas devant Pierre Desgroupes, qu'il a pourtant installé à la direction de l'information de la chaîne de télévision qu'il interroge. Mais ce qui vous intéresse, vous, le technicien Nicolas Delalande, ce sont les niches et les exonérations fiscales qui, à l'exemple de l'avoir fiscal, se multiplient à l'époque.
Oui, effectivement, c'est à partir des années 60-70 que, aux États-Unis d'abord, et puis ensuite dans d'autres pays, on va commencer à multiplier les dérogations, les dispositifs d'exonération ou d'exemption, qui permettent en fait de maintenir des taux nominaux d'imposition assez élevés, et ce jusqu'aux années 80, mais en même temps, en réalité, de commencer à accorder des diminutions d'impôts à des groupes ciblés. Effectivement, alors un certain nombre d'hommes politiques vont finalement être obligés de s'expliquer. Alors, bon, vous dites que Chaban-Delmas est dans une position inconfortable parce qu'évidemment, il est confronté à un scandale public, à une révélation du Canard enchaîné. Et il doit se plier à ce qu'il appelle la loi du journaliste, mais qui, évidemment, dans son esprit, va à l'encontre de la loi du secret fiscal, qui est celle qui est très souvent finalement mobilisée par ceux qui ne souhaiteraient pas rentrer trop en détail sur le contenu exact de leurs revenus ou de leur patrimoine.
Les contribuables les plus aisés sont quasiment en mesure, avec ces mécanismes d'exonération, de choisir leur taux d'imposition.
Mais d'ailleurs, c'est la philosophie en fait, de ce qu'on va appeler les dépenses fiscales, puisque c'est le terme en fait, technique qui correspond à ce qu'on a rebaptisé ensuite niche, c'est de donner une possibilité aux individus, aux contribuables, finalement, d'orienter par exemple, leurs investissements, et donc de récupérer une forme de marge de liberté dans la manière dont ils vont allouer leurs revenus et leur capital, et tout ça aiguillonné, incité par des exonérations, des incitations qui sont décidées par le pouvoir législatif. Donc essayer de donner des incitations aussi pour mettre en place une sorte de pilotage microéconomique des comportements des acteurs.
On a laissé Valéry Giscard d'Estaing, inventeur de l'avoir fiscal, dans ses derniers mois au ministère des Finances, avant qu'il ne soit élu président de la République. Voilà ce qu'il déclare sur la simplification et la publicité nécessaire de l'impôt dans l'émission de télévision d'André Campana.
Nous avons cherché à établir la vérité. La France vivait avec un système fiscal complètement démodé et à propos duquel toutes les vérités étaient plus ou moins camouflées. nous avons pris deux décisions importantes. D'abord, nous avons créé le Conseil des impôts. Deuxièmement, à partir de cette année, vous savez que les revenus imposables seront publiés. Et c'est nous qui l'avons fait et personne d'autre. D'ailleurs, il serait intéressant que la liste de ceux qui n'ont pas payé d'impôts au cours des dernières années soit effectivement connue de l'opinion. Nous avons donc cherché à faire apparaître la vérité. Nous avons ensuite essayé d'avancer dans la voie d'une fiscalité moderne, une fiscalité unique pour tous. Il y a quelques années, vous savez très bien qu'il y avait une taxe complémentaire qui a atteint le taux extravagant de 22% sur une série de catégories professionnelles. Vous savez que nous avions des abattements à la base, des exonérations de toute espèce, 73 réductions d'impôts pour des catégories. Donc, vérité, impôt unique, lutte contre la fraude, voilà notre attitude en matière d'impôt sur le revenu.
Allez, j'ai inventé un mot, Giscard aimait inventer des mots. Visualité de l'impôt, c'est mieux que publicité. C'est simple, on va simplifier, et c'est pas du tout une boîte noire. Ça va être public.
Il y a aussi le discours sur l'unité, la simplification. Enfin, l'idée de l'impôt unique qui, en fait, là, montre un peu et renvoie à des débats beaucoup plus anciens. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une contradiction entre l'espoir, l'espérance que le système puisse rester simple, transparent, qu'il soit compréhensible de tous, et la nécessité de s'adapter, de s'ajuster à des développements économiques et sociaux qui font qu'effectivement, au cours du XXe siècle, il y a eu multiplication du nombre de règles spéciales et autres. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est présent dès le XIXe siècle où à l'époque, en fait, on voit beaucoup de projets qui sont présentés pour la création d'un impôt unique, un impôt simple qui serait perçu et compris de tous les contribuables. Et on voit que ça a rejoué jusqu'à récemment avec cette idée de la remise à plat. En fait, le discours de la simplification, de l'unicité est présent de très longue date. Sur la question de la publicité, dans les années 70, il y a une vraie inquiétude sur la question de la fraude et de l'évasion déjà. Qui est posé alors au sujet de Chaban-Delmas ou autre sur la question des personnalités politiques. On apprend aussi que des artistes finalement ne payent pas d'impôts. Il y a le début d'exil fiscal de personnalités importantes. Et donc une des idées qui est mobilisée aussi, c'est que cette publicité, elle doit permettre d'accroître la docilité de tous. C'est-à-dire qu'en se plaçant sous le regard de tous, on doit permettre finalement d'enraciner plus fortement le sentiment d'obligation, de justification.
Quelque chose s'impose, Nicolas Delalande, dans les années récentes, c'est l'habitude non plus de parler par vaste masse, par catégories socio-professionnelles, ce qui peut être trompeur, mais d'en venir à la question des déciles et des millimes. Maintenant, la représentation qu'avaient les statisticiens, les économistes, s'impose à l'opinion et on calcule le pourcent le plus riche, les 99% autres.
Oui, alors ça, c'est une transformation récente qui a vu les catégories statistiques mobilisées par les économistes finalement se déplacer dans le débat politique. Ça a été utilisé notamment aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street et autres, où effectivement, la représentation qu'on se donne de la société n'est plus celle de l'opposition entre, disons, la bourgeoisie des classes moyennes et des classes populaires. Mais au contraire, on va voir que là où vraiment se joue la dynamique des inégalités, celle qui est la plus préoccupante politiquement et socialement, se joue tout en haut de la distribution, pas seulement dans les 10% les plus riches, mais dans le 1%, le 0,1%, voire le 0,01%.
Merci Nicolas Delalande. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Eline Canegulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard. À la technique, Michel Thomas.